והשם ברך את אברהם בכל. השם הבני אברהם בכל. בכל, ça veut dire en tout, dans tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le bakol? Il vient dire quelque chose qu'on n'attendait pas, qui n'est pas inclus dans la bénédiction standard, quoi. Alors, la première réponse, en fait, la première dracha, c'est Rabbi Yehuda dit que HaKadosh Baruch Hu lui a donné une fille. Voilà. Donc, Abraham avait aussi une fille. Il avait un fils de Sarah, il aurait de Sarah également une fille, d'après Rabbi Yehuda. Une fille dont on ne sait rien, a priori. On ne sait pas combien de temps elle a vécu, on verra après. Là-dessus, Rav Nechemia lui dit la chose suivante. Alors, je vous lis d'abord le Midrash. Le Midrash, lui, il présente, il dit Rabbi Yehuda Rav Nechemia. Donc, sur ce verset de Hashem Berachat Avraham Bakol, il y a une discussion Rabbi Yehuda Rav Nechemia. Rabbi Yehuda, il a dit Shenatan lo. Et alors, eux, ils ont traduit ici, dans le verdier, il lui a donné une fille. Mais le lachon du Midrash, c'est pas, enfin, le Midrash Rabbah que nous, on a dans l'édition Vilna, c'est pas marqué qu'il lui a donné une fille. C'est marqué que HaKadosh Baruch Hu lui a donné, chez Nathan, lo Nekeva. Nekeva, ça veut dire, une féminine, enfin, Nekeva, c'est féminin. C'est le féminin, Nekeva. Nekeva, c'est une femme. Mais c'est un être de sexe féminin, mais ça ne dit pas du tout quel était son statut social, quelle était sa place dans la famille d'Abraham Avinu. Nekeva, ça pourrait parler de Sarah aussi. Bon, on pourrait même, si on va plus loin, on pourrait même dire que il lui a aussi donné une bru, Rivka, ou bien une fille. Mais c'est dit Nekeva. On reviendra là-dessus. Mais alors, il y a des textes dans lesquels c'est présenté de la même manière et on dit effectivement Shenatan lo bat. Et dans la suite, on verra bien parler de bat, mais ici, c'est marqué Nekeva, et je voudrais essayer de rendre compte de Nekeva aussi. Rav Nechemia lui dit, Amar lo Rav Nechemia, écoutez bien, si vous ne l'avez pas devant vous, Ikar beito shel melech, en ktiv ba bracha, littéralement, ça veut dire Ikar Beito Shel Melech. Beito Shel Melech, la maison du roi, c'est ce qu'on appelle le palais en français. Ikar Beito, c'est l'essentiel dans la maison. L'essentiel dans une maison, normalement, c'est la femme. On dit de Rachel qu'elle était Akeret Abayit, Akeret Lachon Ikar. Elle était l'essentiel de la maison. Ikar Abayit, c'est la femme. Alors, Ikar Beito Shel Melech. L'essentiel, donc la femme dans la maison du roi, à son sujet, Enktiv Ba Bracha. Le mot Bracha n'est pas écrit à son sujet. Et par conséquent, tu ne peux pas dire que Hachem a donné à Abraham une Nekeva, Et là, il faut plutôt dire Vachem Berach Avraham Bakol, que justement chez Lonatan Lobat, Kolikar. Là, vous voyez, le Midrash continue avec Bat. Donc, il faut dire que Hachem ne lui a pas donné du tout de fille. Et c'est ça la bracha. On va lire jusqu'au bout le paragraphe. Avec Lévi en Amar, Tlat. Bakol. Bakol, trois choses. Il lui a donné trois choses, trois bénédictions en quelque sorte. Peut-être parce que Bakol a trois lettres. Premièrement, Bakol chez Ishlito Biitzro. Premièrement, c'est que il a donner à Abraham la possibilité de maîtriser complètement son Yetzer Hara. Deuxièmement, Bakol, chez Asa Ishmael Tshuva Bechayav. La deuxième chose, c'est que son fils Ishmael a fait Tshuva de son vivant. Et troisièmement, Shelo chassar, kilarin, shelo klum. Ils ont traduit, eux, que son cellier, disons qu'on va traduire kilarin, cellier, garde-manger, son cellier ne manquait de rien. C'est pas qu'il s'est trouvé à dépourvu, ça c'est probablement pas juste, mais il ne manquait de rien. Rab Levi, b'shem Rab Chama, amar, bakol, shelo chazar v'nissa oto. En quoi est-ce qu'il l'a béni? C'est que, après la Akeda, il ne l'a plus jamais éprouvé. Là, c'est les trois bénédictions qu'on a vues ici. Et ensuite, les Rab Levi qui ajoutent, au nom de Rav Levi qui avait déjà parlé, qui avait dit ces trois choses, il dit, mais maintenant, au nom de Rav Chama, il dit, Shelo Nisaoto, Hachem ne l'a pas rééprouvé. Voilà. Alors, la vérité, c'est que tout le monde considère que cette histoire de Rav Nechemia est très difficile. C'est les Mefarshim, ils ont l'air de dire on ne sait pas quoi dire. Ici, il dit, dans cette édition, il dit Arbe nitraku amfarshim bemaamarze. Les commentateurs, ils ont été très, très dépourvus pour le coup. Sur ce Mahamar-là. Dans la traduction de Midrash Rabbah, ils ont pris une hypothèse, c'est de dire que le Ikar Abayit, Ikar Beto Shel Melech, c'était Sarah. Ça veut dire que on prend ici Avraham Avinu comme Melech. Or, Avraham Avinu, il n'est pas tellement présenté comme Melech. Les Bnei Chet, au moment de la vente de la Marpella, ils lui disent « Nasi Elohim ata betochenu ». Ils ne lui disent pas « Tu es un Melech ». Il dit « Tu es un Nasi, tu es un prince ». Mais Melech, c'est un peu compliqué. Par conséquent, c'est un peu compliqué, comme je vous dis, Alors, on va essayer de travailler effectivement aussi avec Sarah, mais pas seulement. Alors, on peut faire une première remarque. C'est que la bracha que Hachem a donnée à Avraham Avinu, que ce soit Nekeva, que ce soit la Yishtaltut sur son, de dominer son Yetzerara, le maîtriser complètement, que ce soit que Ishmael ait fait tshuva de son vivant, ou ce soit que son sellier ne manquait de rien, la bracha, elle vient toujours compenser quelque chose qui pourrait manquer à Avraham Avinu. Normalement, on s'attendrait à ce que la bénédiction, elle vienne ajouter quelque chose et pas tellement combler un manque. D'accord? Puisque il s'agit de... On aurait, quand on dit il a eu une bénédiction, c'est qu'il en a eu, il a eu quelque chose qui, de plus, quoi, un en plus. Et ici, on a l'impression que ça vient dire qu'il n'y avait pas de manque, en quelque sorte. C'est-à-dire que quelque chose qui aurait pu être manquant, grâce à la bracha, ne l'a pas été. Bon, alors, d'abord, encore un mot sur la bracha, d'abord. Je répète, la bracha, c'est une amplification. Comme ça qu'on le voit dans, chez Abraham de Bologine, par exemple. Puisque c'est une amplification, alors, on ne peut pas amplifier zéro. C'est amplification, multiplication. Si vous multipliez n'importe quoi, zéro par n'importe quoi, ça ne donne rien. Ça donne toujours zéro. Donc la bracha, ça ne permet pas de donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas du tout. Donc si quelqu'un est un sombre crétin, on ne peut pas lui donner par la bracha de l'intelligence. Par contre, s'il est un tout petit peu intelligent, alors la bracha peut faire de lui quelqu'un de très intelligent. Alors ici, en réalité, la bracha, si la bracha, elle semble-t-il bien sur quelque chose qui aurait pu être un manque, quelque part, ça ne fonctionne pas comme une bracha. Alors peut-être que ce qu'on vient dire ici, c'est étant donné que c'est Hachem qui donne la bracha. Ce n'est même pas Elohim, si vous voulez. C'est vraiment Hachem qui donne la bracha. Et donc, il se peut qu'une bracha d'Hachem, elle aille au-delà des choses. Avraham Avinu, c'est un homme, au sens masculin du terme, et il est un homme et donc il n'est pas une femme. Donc, il manque d'une certaine façon à Avraham Avinu une dimension de Keva, une dimension féminine, si vous pouvez, si on peut dire comme ça. Et la bracha d'Hachem, c'était de lui donner cette dimension manquante qu'il avait. Et c'est pour ça que je crois que ce midrash-là ne parle pas de la fille, vraiment. Bien que Rav Nechemia ait compris de Rav Yehuda qui parlait d'une fille, puisque Parce qu'en général, quand on dit que on a donné à un homme ou à une femme, on lui a donné, et qu'on parle d'un être humain, c'est en général qu'on leur donne, c'est les enfants. Donc Hachem lui a donné une dimension féminine. La dimension féminine d'Abraham, c'est Sarah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Sarah, si vous voulez, elle remplissait complètement l'espace féminin manquant chez Abraham. Pour être complet, il faut avoir ce que Hachem a fabriqué en premier, un être humain qui était Zachar ou Nekeva. Le premier homme, au sens pas masculin justement, c'était un être qui était à la fois féminin et masculin. Donc d'une certaine manière, Abraham qui vient par exemple réparer la faute d'Adam Arishon, pour être capable de la réparer d'une certaine façon, il fallait être comme un peu comme Adam Arishon. Il faut une dimension féminine. Alors c'est celle de tous les mariages, vous me direz. Non, ce qu'on veut dire ici, c'est bien sûr qu'Abraham était marié. Enfin, mais il faut dire le rôle de Sarah. Que Sarah prenait toute la place de la femme dans l'être humain. Donc il lui a donné à Abraham il lui a donné Nekeva. Il lui a donné quasiment tout le principe féminin se retrouvait. Il y avait cette, et du coup, il faut bien entendre que quand on parle d'Abraham, en fait, on parle d'Abraham et Sarah. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Sarah accuse Abraham, quand il a dit à Hachem, mais tu me promets un futur, etc., mais je n'ai même pas d'enfant, Sarah lui dit, mais tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant. Tu n'aurais pas dû me dissocier de toi. Et lui en a énormément voulu. Et Sarah était, dans le couple Sarah, Abraham-Sarah, la prophétie était du côté de Sarah. Abraham était un prophète, mais Sarah était plus grande que lui en prophétie. On ne vous voit. Comme si, ici, on a un peu l'impression que peut-être que la nevoie a à voir avec le féminin, plutôt. C'est pour ça que Sarah était plus grande. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Tout ce que je vous raconte, là, j'en suis pas sûr. De toute manière, ce que je dis, c'est ce que je pense maintenant. J'ai essayé de comprendre ce midrash. Bon, je suis comme tout le monde. C'est difficile. Mais bon, je pense que, voilà, pour l'instant, je vous dis ce que je pense. Donc, c'est ça la bracha qu'Hachem a donné à Abraham Avinu. Il lui a donné quelque chose qui, j'ai pas l'impression qu'une fille puisse donner cette dimension Nekeva complètement à son père. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Mais étant donné que par la suite, alors, par la suite, qu'est-ce que dit Rav Nechemia ? On va revenir sur Rav Yehuda, mais qu'est-ce que dit Rav Nechemia ? Il lui dit, « Ikar beto shel melech en katuf ba bracha. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué dans le Midrash de nombreuses fois. Que la bracha d'Abraham, si vous venez, elle venait grâce à Sarah. Donc, ça veut dire que Sarah, au sujet de Sarah, on n'a pas parlé de bracha. C'est pas exactement ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est que il n'y a pas de pasouk qui disent « Vachem berach et Sarah, Hachem a béni Sarah ». On aurait pu imaginer qu'un tel pasouk existe quand Hachem, quand on parle de ce que Sarah est devenue enceinte. Mais là-bas, c'est marqué « Vachem pakad et Sarah ». On aurait pu avoir « Vachem berach et Sarah ». Il a béni Sarah, elle a eu un enfant, elle était enceinte. Non, ou pakad. Pekida, mais pas bracha. Non, il n'y a pas. Alors, voilà, ça c'est ce que dit Rav Nechemia. Mais peut-être, si vous voulez bien vérifier le raisonnement, avec ce raisonnement-là, cet argument-là, Rav Nechemia, il veut interdire à Rav Yuda de dire qu'il lui a donné une fille. Lui, il a compris que c'était une fille. Il dit, tu peux pas me dire qu'il lui a donné une fille. La preuve, c'est pas marqué Hachem Berach, une fille. Pas marqué. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Ce qui n'est pas marqué, c'est qu'Hachem n'a pas donné de bracha à une femme, disons. Au sens, si c'est pas marqué Hachem berach et Aïcha. Mais Rabbi Yudé n'a pas dit que la femme, que la fille en l'occurrence, même si on dit que c'est la fille, que la fille a été bénie. La fille est la bracha. Donc l'argument de Rav Nechemia, il tient pas. On parle pas de ça. Rav Yehuda, il dit, mais il devrait lui dire, mais je t'ai jamais parlé de ça. C'est pas ça. Moi je dis, disons que Rav Nechemia a compris fille là-dedans, dans l'histoire de Rav Yehuda. Je t'ai pas dit que la fille était une bracha au sens qu'elle avait reçu une bracha. Non. Avraham a reçu une bracha. La bracha, c'est sa fille. Ah, on n'a jamais dit qu'Hachem a béni une fille. Bon, d'accord, c'est possible. Mais c'est pas un argument. Mais c'est marrant parce que Rabbi Yehuda, il répond pas à ça. Les commentaires que j'ai vus, ils ont pas l'air d'avoir été dérangés par ça. Donc, il faut peut-être penser que je ne sais pas si mon raisonnement est correct, mais à mon avis, Rav Nechemia, il ne parle pas la Inyan, quoi. Sauf à dire que c'est la même chose, mais bon, ça reste à prouver. Alors du coup, Rav Nechemia, il dit non, il ne lui a pas donné de fille. Et il va même jusqu'à dire chez Lonatan Lobat, Kol Ikar, pas du tout de femme. Ça veut dire quoi? Ça ne suffisait pas de dire chez Lonatan Lobat, ça veut dire Lonatan Lobat, Kol Ikar, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est quoi? Alors la question c'est, en quoi est-ce que ne pas avoir de fille pour Abraham, c'était une bracha? Alors ça, on peut répondre à cette question. Mais ce n'est pas du tout généralisable, ça concerne Abraham Avinu. La question, elle est très terre à terre. S'il avait une fille, si Abraham avait une fille, avec qui il allait la marier? Il va la marier avec un des fils de Lavan. Mais ces gens-là sont des idolâtres. Prendre une femme qui provient d'une famille d'idolâtres, et bon, tu la sors de sa famille de toute manière. Et maintenant, c'est la fille qui va entrer dans la famille du garçon, Marie. Cette famille, elle est idolâtre, et a priori, pas Abraham, il pourrait même pas la marier. Donc, ce n'est pas une bracha d'avoir une fille si tu ne peux pas la marier, parce que, sauf à un idolâtre. Ce qu'évidemment, Abraham n'était pas prêt à faire. Donc, pour Abraham, une fille, c'est un problème. Donc, ne pas avoir de fille, ça peut être entendu comme une bracha pour lui, dans la circonstance où il est. Parce qu'il est dans un monde totalement idolâtre. Sur le kolikar, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi il faut ajouter kolikar? Est-ce qu'il veut dire par là qu'il n'y avait aucun côté féminin? Alors quoi, il veut exclure Tumtum, Androgynos, c'est ça qu'il veut exclure? Je ne crois pas. Et du coup, je ne sais pas ce que veut dire le Kolikar ici. Ablevi dit trois choses. La bénédiction, c'est sur trois plans. Premièrement, Ishlito beYitzro. Il y a d'autres endroits où on dit qu'Abraham Avinu, il avait réussi à ne plus avoir de Yetzer Hara. Alors ici, il me semble la chose suivante. On a été créé avec un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, on doit le faire primer, et le Yetzer Hara, il faut l'empêcher de nuire. Il faut lui enlever le pouvoir, finalement. Mais il y a quelque chose dans le Yetzer Hara d'irréductible. La Gemara qui dit que quand les Chachamim ont obtenu, vous connaissez, à la fin du Beit HaMikdash, du premier Beit HaMikdash, les Chachamim ont dit, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas avec le problème de l'idolâtrie, on ne sait pas le résoudre. Donc ils ont demandé à Hachem de supprimer pas complètement l'idolâtrie, mais en tout cas la virulence de l'idolâtrie. Le fait que l'idolâtrie était un must. Là, c'est ça qu'ils ont obtenu. Et quand Hachem a accepté, ils ont dit, mais on pourrait peut-être demander à Hachem de supprimer complètement les Yetzer Hara. Alors Hachem a dit, voyons ce que ça donne. Le lendemain, il n'y avait plus une poule qui pondait un œuf. C'est le principe. Il y a un principe dans les Yetzer Hara qui est nécessaire pour le fonctionnement du monde. À la limite, même si on le regardait simplement comme un pôle négatif avec un pôle positif pour créer de la tension, pour faire vivre les choses. Donc, d'une certaine manière, un être humain ne peut pas complètement maîtriser son Yetzer Hara. C'est la raison pour laquelle, comme vous savez, on dit que quand Yaakov Avinu a prié Hachem et il a présenté Hachem comme étant Eloke Avraham et puis aussi le Eloke Paraditsrak, enfin Eloke de mon père, son père était encore vivant. Chazal disent que Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais accepté qu'on dise Eloke de quelqu'un de vivant. Yitzhak, c'est un contre-exemple. Alors, on explique que, Rachid l'explique aussi, que Yitzhak Avinu, à ce moment-là, il était à la fois aveugle, il était confiné chez lui, pour le coup. Il ne sortait pas de chez lui, à cause de pouvoir considérer qu'il n'avait plus de problème avec son Yitzhara. Mais tant que quelqu'un est vivant, c'est marqué Lo Yamin, à cause de pouvoir, il ne fait pas confiance à quelqu'un de vivant. Donc, il y aura Eloke de quelqu'un après sa mort, mais pas de son vivant. Sauf si quelqu'un est quasiment mort, comme c'était le cas d'Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que tant qu'on est vivant, il y a du Yetzerara. Et donc, on peut toujours tourner, mal tourner. Donc, Hachem n'accepte pas qu'on dise à l'oké de cette personne qui est encore éventuellement susceptible de mal tourner. Donc, on ne peut pas supprimer les Yetzerara. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a fait tout le travail pour aller aussi loin que possible vers la suppression et la maîtrise des Yetzerara. Le pas suivant, la transcendance quasiment, qui fait qu'il n'y a plus d'Yetzerara, ça a été donné à Abraham Avinu par Hachem. Hachem, Berach Avraham, Bakol, il Berach Oto. Hachem lui a donné ce coup de pouce qu'on ne peut pas avoir sans qu'Hachem le donne. Ce n'est pas possible sans qu'Hachem le donne. Et ça, il lui a donné. Donc, il lui a donné quelque chose qui est un en plus. Ce n'est pas seulement une compensation. Il lui a donné quelque chose que l'être humain ne peut pas avoir par lui-même. Mais c'est parce que c'est Hachem qui donne. C'est marqué Berach, mais c'est Hachem Berach. Donc c'est presque contradictoire, si on veut. La deuxième chose, c'est que Ishmael a fait Tshuva Bechayav. D'une certaine façon, pour Avraham Avinu, le fait que Ishmael n'a pas choisi la bonne direction, c'est d'abord un échec, et c'est un grand tsar, c'est une grande souffrance. Parce que Ishmael, c'est son fils. Quand Hachem a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant, etc., on parlait d'Israël à ce moment-là, Abraham a dit à Hachem, mais Louis Ishmael, il criait le fanera. Pourquoi tu vas faire un S que Sarah, une très vieille femme, et moi, un très vieux bonhomme, on est un enfant? C'est totalement miraculeux. Sarah n'avait même pas d'utérus, d'après certains midrashim. Donc, il faut vraiment... Voilà, il y a Ishmael. Fais en sorte que Ishmael devienne bien. Donc, Avraham Avinu, il espérait Ishmael. Il espérait qu'Ishmael, ce soit son continuateur. Et il a dû le chasser parce que ça ne marchait pas et qu'Hachem a dit qu'il devait obéir à Sarah parce qu'elle est une plus grande prophétesse que lui, elle voyait les choses que lui ne voyait pas. Ben, il est parti dans l'idolâtrie. Donc Hachem a fait en sorte, et ça aussi probablement, il a fait en sorte que, même si Ishmael, quand on dit qu'il a fait tchouva, il n'est pas devenu juif pour autant. Il n'est pas devenu, un élève d'Yitzhak ou un collaborateur d'Yitzhak Avinu. Ça s'appelle tchouva. Disons qu'il a fait tchouva sur les Sheva Mitzvot d'Ebnei Noach. Et le privilège qu'Hachem, la tova qu'Hachem a faite à Abraham, c'est que cette tshuva, il l'a faite de son vivant, du vivant d'Abraham. Donc il a pu voir qu'en fait, il n'a pas de descendant idolâtre. Ses deux fils sont du bon côté. Il sera qu'il est plus de bon côté, mais Ishmael est du bon côté. Il est un ben noir. Il a fait tshuva. Alors, en quoi est-ce que ça sort un peu de l'ordinaire? Ça veut dire que Abraham, on parlait d'être complet, si vous voulez. Complet, avec, on a dit avec Nekeva, complet ici. Il est complet parce qu'il a produit ses deux fils, en fait. Il a produit deux fils qui sont dans, dans la bonne voie, en quelque sorte. Donc, la bracha, c'est le compléter. Il est cholette sur son yetzer hara. Voilà, il est comme Adam Arishon avant la faute, qui n'avait pas d'yetzer hara intérieur. Et la troisième chose, c'est qu'il ne manquait rien du point de vue matériel. C'est du côté matériel, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin, il avait besoin pour servir Hachem, ce côté-là était aussi complet chez Abraham. Donc c'est ça, là, je pense, la bracha, c'est que de tous les côtés, en quelque sorte, Abraham était complet. Et on peut presque dire, s'il était complet, alors il était presque Adam Arishon. Alors vous savez bien qu'en réalité, le Midrash dit que HaKadosh Baruch Hu voulait créer le monde avec Avraham Avinu. Mais comme il fallait laisser une place pour la possibilité de se casser la figure, Hachem a dit, mais si Avraham se casse la figure, il n'y aura personne pour le rattraper. Et Adam n'a pu être créé comme il a été créé que parce qu'il y avait la possibilité de réparer la faute d'Adam Arishon par Abraham. Donc Abraham, c'est bien un deuxième Adam Arishon, si vous voulez, d'une certaine façon. Il est bien le Adam Arishon pour le clan Israël. Et du coup, on comprend aussi un peu mieux cette histoire de Nekeva. Donc, il faut être Adam Arishon, et le Adam Arishon même, qui était Zaha ou Nekeva. Complète. Alors, on est après la séparation entre Zachar et Nekeva. Mais Hachem a donné à Abraham le complément parfait, féminin, absolument nécessaire, pour qu'on puisse parler d'une naissance du monde, en fait. Une renaissance, enfin, une deuxième naissance du monde, avec un deuxième Adam Arishon. Il reste une question, qui est la question. Pourquoi effectivement n'y a-t-il pas de passouk qui disent Hachem Berach et Sarah? Bon, tout le monde comprend la question. La question est une bonne question, non? Bon, maintenant, si ça ne vous dérange pas que ça ne soit pas marqué, on peut peut-être passer à autre chose.
Si, c'est bon. Ben, moi.
Il y a des choses qui ne relèvent pas du principe de bracha. On a vu que, je vais quasiment le redire, mais tout ce qui est de l'ordre du miracle ne relève pas de la bracha. C'est une autre façon de gouverner les choses. Ce n'est pas une amplification. Un miracle, ce n'est pas une amplification des choses. C'est comme une création. Et le problème de la bracha, donner une bracha, c'est, si on le représente, c'est qu'on va apporter quelque chose à quelqu'un comme de l'extérieur. On lui donne quelque chose qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas produire. On ne peut pas produire obligatoirement des enfants qui vont dans le bon sens. Il peut faire, ce sont des êtres capables de choisir par eux-mêmes. Ishmaël, il pouvait partir où il allait, où il voulait. On ne peut pas avoir dans le monde matériel tout. Il peut toujours manquer quelque chose. Si on est dans le monde matériel, alors on est à la situation des saves. Quand Yaakov lui donne des cadeaux, il dit, mais tu peux les garder, yesh li kol, yesh li rav. J'ai beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup, rav. Mais rav, c'est, ok, bon. Comme disent les enfants, très beaucoup. Très beaucoup. J'ai beaucoup, oui, je peux encore avoir très beaucoup. Avant, Yaakov avait lui dit, yesh li kol, j'ai tout. C'est ça, Hachem Berach Avraham Bakol. Tout est là, Kol c'est tout, c'est Kolel, c'est tout, tout est là. Le miracle, si vous voulez, si c'est miraculeux, alors ça veut dire que c'est comme si la chose était capable d'elle-même de produire la chose. Produire le miracle. On dit Hachem fait un miracle, mais ce n'est pas une bracha, ce n'est pas quelque chose qui va donner de l'extérieur. C'est comme s'il va donner une force intérieure à la chose, où il va aider que la chose elle-même va être capable de produire les choses. Un peu comme une croissance végétale, quoi. Vous avez un grain de blé et tout à coup il va sortir des épis. C'est de l'ordre, une forme, d'une certaine manière, c'est un miracle. C'est pas une. La bracha, c'est quand ça dépasse. Mais à Sha'arim, comme Yitzhak Avinu a reçu. Mais. Donc, le miracle, lui, on peut pas prier, puisque prier, ça fonctionne avec le Baruch. On demande à Hachem d'amplifier, etc. Parce que, dans la prière, on s'appuie toujours sur quelque chose qui existe pour demander à Hachem d'amplifier. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit qu'on doit être somer geoula litfila dans la tfila de Shacharit. Dans la prière de Shacharit, on dit qu'on doit juxtaposer la geoula à la tfila, à la prière. La bracha qui est juste avant la Amida, c'est Baruch Ata Hashem Gaal Israël, qui a libéré, Hashem a libéré le Klal Israël. Et on nous dit, il faut être sommaire, Geoula, la Tfila. Nous, concrètement, on a plutôt l'impression qu'on est sommaire, Tfila, le Geoula. On a l'impression, nous, dans l'ordre, Baruch Hu, Kriyat Shema, et puis Gal Israël, et Hashem Sfatai, et la Amida. Donc je colle la tfila à la bracha de Gal Israël. C'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est il faut être sommer, Geoula, la tfila. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est la tfila. Et pour que la tfila soit vraiment possible, tfila dans laquelle on va demander, on peut presque dire l'essentiel, c'est la geoula. On va demander la fin de l'histoire, la geoula finale. Dans la Amida, on demande Goël Israël, au présent futur. Mais si tu demandes Goël Israël, présent futur, si on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui a déjà eu lieu, alors, c'est plus de l'ordre de la bracha, c'est plus une amplification. C'est pour ça que tu dis, mais juste avant ça, tu dis Gaal, ça veut dire, tu dis à Hachem, tu l'as déjà fait. Tu nous as déjà libérés de l'Égypte. Ce qu'on demande maintenant, c'est une amplification de cette Geoula de Mitzrayim. Donne-nous la Geoula finale. Et si on ne juxtapose pas, alors on peut difficilement demander le Goël, parce que c'est quasiment de l'ordre du miracle. Donc on s'appuie, et pour qu'on puisse s'appuyer, il faut mettre la Géola ici, de telle sorte qu'on puisse appuyer qu'elle vienne en soutien de la Tfila. C'est ce problème du miracle. Et donc, si maintenant on dit, alors maintenant, l'idée est comme ça. Je crois que quand la Torah ne dit que quelqu'un est dispensé de quelque chose, ou que la chose, bon, ça lui convient pas, ça concerne pas, ça veut pas dire que la personne va rester handicapée à vie. A priori, ça veut dire que cette personne-là, ce qu'on recherche avec cette chose, cette personne-là, elle l'aura d'une autre manière. Elle y accède d'une autre manière. Je vais donner un exemple. Les femmes, elles sont dispensées de ce qu'on appelle mitzvot aseh chez Azman Grama. Les mitzvot qui sont liées au temps. Donc, d'une certaine manière, les mitzvot qui marquent le temps. Les femmes en sont dispensées. Pourquoi elles sont dispensées alors, quoi? Pourquoi elles sont dispensées? Elles n'ont pas besoin de ce à quoi on arrive grâce à la mitzvah de Riya, la mitzvah de Lulav, la mitzvah de Shofar, etc. Elles n'ont pas besoin de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont pas accès à ce à quoi on arrive par là? Ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'elles y arrivent aussi. Elles ont d'autres voies. Le problème du temps, on n'a pas. Les hommes, ils ont besoin qu'on leur marque le temps. Les femmes, elles n'ont pas besoin, leur corps marque le temps. Dans leur corps, le temps est inscrit. On a tous une horloge intérieure, etc. Tout ça. Okay. Les femmes, elles ont quelque chose de plus concret pour marquer le temps. Et les expériences qu'elles font à travers cela leur permettent d'accéder à des choses auxquelles les hommes n'accèdent que par le biais des mitzvot aseh chez Azman Grama. Dans la mitzvah de Riya, il y a une mitzvah, c'est marqué qu'il faut voir. Donc un aveugle, il est dispensé de la mitzvah de Riya. Mais dans la mitzvah de Riya, de monter à Yerushalayim pour voir et être vu par Hachem, et ça, quoi que ça veuille dire, c'est une expérience extraordinaire. C'est une dimension à laquelle on accède de cette façon-là, en montant à Yerushalayim. Alors quoi, les gens qui sont aveugles, ils n'accèdent pas à ce niveau-là? Ils sont handicapés à vie? Ils sont handicapés par le fait qu'ils ne voient pas. Est-ce que spirituellement, ils sont coincés? Mais Rav Yosef, qui était aveugle, il est coincé, lui? Pas du tout. Par le travail que leur impose, là, en l'occurrence, la cécité, c'est un travail grâce auquel ils peuvent accéder aussi. C'est une autre voie d'accès. Bon, ce que je raconte là, c'est pour dire que si, effectivement, les femmes, Sarah, elle n'a pas bénéficié de Hachem Berach et Sarah Bakol, ou même pas Bakol, Hachem Berach et Sarah. Remarquez, ça veut dire quoi? Elle ne peut pas accéder? Bien sûr qu'elle accède. Elle est par exemple plus grande que, elle a une compensation. Elle est plus grande qu'Avraham en Nevoua. Donc peut-être elle y arrive par la noix, je ne sais pas. Peut-être elle y arrive par la nevoie. Là où Abraham ne peut pas arriver par la nevoie, parce qu'il n'est pas assez grand. Mais elle, elle est suffisamment grande pour y arriver par la nevoie. Ça veut donc dire, si je ne me trompe pas, que si je considère que la bracha, c'est quelque chose qui est ajouté de l'extérieur, si on peut parler comme ça, dans l'image, c'est Hachem envoie une bracha, donne, il multiplie, ça vient de l'extérieur, une multiplication. Et que la femme n'accède pas de cette manière-là. Alors, chez elle, ça fonctionne peut-être comme dans le miracle. Ça veut dire qu'elle est assez grande pour trouver en elle la ressource, en quelque sorte. Hachem a peut-être implanté en elle. C'est pas la même chose. Adam Harishon, il est le, si on peut parler comme ça, le résidu du premier Adam qui était Zaha ou Nekeva, après qu'on ait enlevé une côte ou un côté. Peut-être que ça le limite, ça l'a limité. Mais la femme, elle a été construite par Hachem à partir de là. Et peut-être quand il l'a construite, il lui a donné les dimensions qui lui permettent d'être ce qu'elle est. C'est pas pour rien que toutes les geoulottes sont l'œuvre des femmes. Si on est sorti de Misraïm, si on a été, que ce soit à Purim, à Hanouka, c'est toujours les femmes. Bah, les hommes n'ont pas cette force, non. Les hommes ne sont pas capables de le faire. Visiblement, puisque c'est les femmes qui le font toujours. Et où est-ce qu'elles ont... C'est pas marqué Hachem Berach et Esther ou Hachem Berach et... pour qu'elles puissent le faire. Bien sûr qu'il les a inspirées, bien sûr qu'il les a. Mais ce n'est pas un processus de bracha. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la multiplication. Peut-être quelque chose qui est de l'ordre de, je ne sais pas, peut-être qu'il faut dire que, est-ce que la croissance végétale, c'est de l'ordre de la multiplication? Cette division, etc. Est-ce que c'est... Bon, la division, on dirait multiplication, division, c'est bien une multiplication peut-être, je ne sais pas. Et peut-être qu'il y a autre chose que ça. Quelque chose qui a, fonctionne, je ne sais pas. Et peut-être elles ont en elles, sans qu'on ait besoin de le multiplier, Hachem les a construites de telle sorte que ça fonctionne comme ça. C'est pas, bon, c'est pour le dire en un mot, on ne pense pas de la même manière avec ou sans utérus. Point barre. C'est ça. Et à la vérité, Abraham et Sarah, sur ce point-là, ils étaient tous les deux créés avec des handicaps. Abraham, il était toum-toum, et Sarah, elle n'avait pas d'utérus. Hachem a fait un S pour Abraham, il a pu avoir un enfant, avec Agar d'abord. Et après, Hachem a fait un S à Sarah, qui lui a fabriqué un utérus. Aujourd'hui, ça vous paraît courant, hein, un utérus artificiel, c'est connu. En ce temps-là, c'est Hachem qui faisait les utérus artificiels. Aujourd'hui, voilà ce que je pense. Sur ce paragraphe-là qui reste évidemment difficile avec tout ce que j'ai dit, mais dans les mefarshim que j'ai vu personne qui expliquait de façon totalement convaincante. Pour l'instant, je me suis convaincu avec ce que je me suis raconté. Et je vous le raconte aussi.
Merci.
Voilà, maintenant, on va passer à autre chose. C'est curieux, le Midrash, je ne sais pas qui est-ce qui a fabriqué le partage du Midrash Rabbah en chapitres, etc. Bon, ici, Vayomer Avraham el Avdos Kan Beto. Avraham Avinu parle avec son serviteur, son esclave, Zekan Beto, le vieux de sa maison. Alors vous savez bien de quoi il va lui parler. Il va lui parler de mariage, plus exactement du mariage de son fils Yitzhak. Et le serviteur le plus âgé ici, le Zakan, Zakan Beto, c'est Eliezer, son serviteur Eliezer. Donc pour qu'on comprenne bien, je précise que vous savez certainement, mais que Eliezer, c'est un fils de Nimrod. Nimrod, c'est le grand ennemi d'Abraham. Et Eliezer, il est cananéen. Et Canaan a été maudit par Noach. Dans l'histoire de la sodomie ou civilisation ou de la castration de Noach. Tout ça, ça a été déclenché par Canaan en réalité. Et Noach a maudit Canaan. Et donc Eliezer est maudit. Il est Arour. Il y a deux mots pour la malédiction, c'est la clala ou le fait d'être déclaré Arour. Qu'est-ce que ça veut dire être maudit? Donc clala, on l'entend bien, parce que le mot clala, il est construit sur la racine cal, avec un redoublement du lamed, ça veut dire super cal, super léger. C'est-à-dire, dans la Torah, quand quelqu'un est Arour ou bien Koulal, ça veut dire qu'il est quantité négligeable. Il est réduit complètement à une quantité totalement négligeable. Et donc, il n'a pas de grandeur possible. Alors, est-ce que cet état-là est un état dont on ne peut pas, dont on ne peut pas sortir? Si quelqu'un est né cananéen, il est fichu à vie. Alors, bon, c'est un scoop. Au début, Avraham Avinu va dire à Eliezer, tu es maudit. Donc, Eliezer, il avait, d'après certains midrashim, Eliezer avait une fille. Cette fille qui est la fille d'Eliezer, je ne sais pas qui était la femme d'Eliezer, mais la fille d'Eliezer, elle a été élevée dans la maison d'Abraham Avinu. Donc, c'est une fille de la maison. Ce n'est pas la fille d'Abraham Avinu, mais c'est la fille d'Eliezer. Elle a été élevée dans la maison d'Abraham Avinu. C'est la femme idéale pour Yitzhak, non? Elle est parfaitement, elle est au parfum de tout. Alors Eliezer, il a rêvé que sa fille devienne la femme d'Yitzhak. Mais Abraham lui a dit, tu es maudit, mon fils il est Barour. Il ne peut pas y avoir d'alliance. Mais quand Eliezer va aller, c'est lui qui va donc être chargé d'aller chercher une épouse pour Yitzhak, en Mésopotamie, en Aram, chez Laban, chez Betuel d'abord. Et quand il a fait le job, au milieu déjà, bon, ça vient de Laban, mais la Torah, elle l'a écrit, donc c'est devenu vrai, quoi, en tout cas. C'est qu'à ce moment-là, Lavan, il l'appelle beau, il lui dit, viens, Baruch, tu es béni d'Hachem. Et à ce moment-là, effectivement, Eliezer sort de sa condition de Arour et devient Baruch. Mais ça, c'est quand il est sur place pour choisir Rivka. Mais en fait, l'affaire n'est pas encore faite. Donc, ça pose un petit problème. À ce moment-là, puisqu'il est Baruch, il n'y a plus rien qui s'oppose, d'après ce qu'a dit Avraham Avinu. Plus rien ne s'oppose à ce que sa fille épouse Yitzhak. Pourquoi aller chercher une fille dans une famille idolâtre? Alors, on a la fille d'Eliezer, qui est maintenant est Baruch. Bon, mais on va. Ça ne marche pas. Je crois que c'est le Mesher Orma qui explique que ça ne fonctionne pas. Parce que si. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, ce qu'on voit, pour répondre à la question que j'ai soulevée, ce n'est pas une condamnation à vie. On peut, mais il faut pour en sortir, il faut être Eliezer. Et on va voir qui est Eliezer. On a encore le temps de le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire que Eliezer soit le plus âgé de la maison? Pourquoi la Torah nous dit qu'il est Zekan Beto? Abraham dit à son serviteur, donc, il est le gérant de la maison, etc. Et il va lui dire, voilà, jure-moi que, etc. Alors, le fait de dire Zekan, le Midrash dit, Shaya Ziv Ikunin Shelo Domelo. L'éclat du visage d'Eliezer ressemblait à celui, à l'éclat du visage d'Abraham Avin. Regardons ensuite l'autre aussi. Le pasouk continue et il dit Amoshel Bechol Asherlo, celui qui dirigeait, qui commandait, qui contrôlait tout ce que Avraham colla cher l'eau, tout ce qu'il avait. Ça, c'est le pasouk. Et qu'est-ce qu'on dit de Eliezer? Shaya shalit bi yitzrok moto. Eliezer, il maîtrisait son yetzer hara comme Avraham. Avraham, on vient l'expliquer en long et en large, que ce n'est pas possible d'être cholet sur son yetzer hara, si ce n'est qu'Hachem donne la bracha. Ici, c'est marqué qu'Eliezer, il le fait. Bon, c'est possible. Ici, si je ne me trompe pas, parce que finalement, ce n'est pas marqué, c'est moi qui ai dit que ce n'était pas possible. Mais pourquoi ce n'était pas possible? Je crois que ce qui est dit là, c'est la chose suivante. Avraham Avinu, pour faire ce travail-là, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le faire. Donc, c'est Hachem qui le lui a donné. Cette maîtrise absolue de Shlita sur les Yetzer Hara. Mais quand on a un maître, alors on peut, grâce au modèle que le maître représente, alors ça devient possible. Eliezer, il l'a fait parce qu'il avait un maître, Abraham, qui, lui, était dans cette situation. Il a vu ce que c'était être Sholet Beitzro. Et comme Eliezer a fait, il est l'alter ego d'Abraham, il fait la même chose qu'Abraham, il a un visage qui rayonne de la même manière que celui d'Abraham, il est quasiment son alter ego. Comme Agar était quasiment l'alter ego de Sarah, jusqu'à ce qu'elle se révolte contre elle. C'est ça qu'on dit. Donc ça veut dire que maintenant c'est possible d'être cholette sur son Yetzara. Abraham, il n'avait pas de modèle. Il fallait qu'Hachem le lui donne. Et maintenant qu'il y a un modèle, alors c'est accessible, c'est possible. Et bon, il faut avoir cette relation de maître à Ève, enfin de l'Ève à maître qu'avait Eliezer par rapport à Abraham Avinu. Donc voilà ce qu'on dit ici. Il est Zekan. Pourquoi on dit que l'éclat de son visage était semblable à celui d'Abraham Avinu? C'est parce que on peut décomposer Zekan en deux et dire Zé, le Zé, je l'entends ici non pas par Zé, mais par Ziv, l'éclat. Ziv. Et Kan, c'est le raccourci de Ikan, de l'icône. L'éclat de l'icône. L'icône, c'est le visage de son visage d'Eliezer, le visage d'Hachem, d'Avraham Avinu. Ziv Ikun. L'éclat de son visage. Voilà. Donc, le serviteur d'Abraham, c'est un bonhomme qui est quasiment l'alter ego d'Abraham. Vous vous rendez compte, son visage rayonne de la même manière que celui d'Abraham. Et ensuite, il est cholet sur son Yetzirah comme Abraham. Ça veut dire que vous avez vu la dracha? La dracha, elle est sur le verset qui dit que Eliezer était Moshel Bechol Asher Lo. A priori, selon la règle de grammaire, le Kol Asher Lo, ça se rapporte à Avraham Avinu. De même qu'avant, on a dit Sheya Ziv Ikunin Domelo, à celui d'Avraham. Mais le Midrash, il est d'Oresh, comme si à Moshel, Bechol Asher Lo, il était Moshel sur tout ce qu'il avait, lui, Eliezer, pas Abraham. Le Lo, c'est Eliezer, ici, dans la Drasha. Pourquoi on peut faire une chose pareille? Parce que Eliezer, c'est l'alter ego d'Abraham. Tu peux dire Lo, ce même Lo qui, grammaticalement, veut dire Abraham. Ici, le Midrash, il se permet de dire, mais c'est Eliezer. C'est une puissance de ce Midrash incroyable. On n'oserait jamais dire une chose pareille. Qui est-ce qui oserait dire une chose pareille? Mais bon, on n'est pas le Midrash. Alors, il lui dit... Il lui dit d'abord, tu fais un geste, d'abord, tu vas me jurer, tu jures. Il ne sait pas encore sur quoi, mais il lui dit d'abord, ce qui va se passer là maintenant, ça se fait avec un serment. Simna yadcha tachat yerichi. Pose, s'il te plaît, ta main sous ma hanche. Ce que ça veut dire, il va le faire jurer. On a vu dans la paracha qu'on vient de lire, et Yaakov Avinu, il a fait jurer Yosef. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Simna Yatra Tacha Tirifi. Même chose. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, enfin, quand quelqu'un, vous avez A qui dit à B, tu me dois 100 balles. Et B lui dit non, je te dois rien. Comment on fait pour trancher? Un des modes, si on doit trancher, on va regarder s'il y en a un qui peut donner plus de force à sa parole que ce qu'elle a. Pour l'instant, les deux paroles sont égales. Et on va faire jurer l'un d'entre eux. Voilà, pourquoi on fait jurer celui-là plutôt que celui-là? Bon, ça, c'est un autre problème. Enfin, le faire jurer. Le jurer, c'est-à-dire je jure. Pourquoi ça donne de la force à la parole en question? C'est que selon la Torah, une shvoa, jurer c'est shvoa, ça ne se fait, ça peut se faire seulement si on utilise le Shem Hashem. C'est-à-dire, j'utilise le nom d'Hashem, et je dis en quelque sorte, je parle sous la responsable, enfin, je suis sous Hashem quand je parle. Et donc, c'est le fait de mettre Hashem dans l'affaire, pour quelqu'un qui est Arei Shamaim, qui craint le ciel, ça donne du poids à sa parole. Mais on peut aller plus loin encore. On peut faire jurer quelqu'un hein, alors qu'il tient dans sa main un Sefer Torah. Tu jures, dans le serment, obligatoirement, il y a le Shem Hashem, et maintenant tu tiens un objet de mitzvah, le Sefer Torah. Donc ça, c'est une troisième darga, c'est encore plus haut. Il y a la parole, il y a la shvoa, et il y a la shvoa qui s'appelle avec Nekitat Chevetz. Quand on tient un objet qui a de la Kdusha. Le seul objet qui avait de la Kdusha à ce moment-là, c'est la Mila, la circoncision. Donc quand il lui dit « mets ta main sur ma hanche », ça veut dire « tu fais une shvoa en tenant la Mila dans la main » pour donner le poids le plus grand qu'on puisse donner à une parole. C'est totalement engagé, complètement bloqué, complètement. C'est pour ça que Yaakov voulait bloquer complètement Yosef, pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais comme vous savez, parce que par la suite, Paro va lui faire des difficultés, et que grâce à cette shvoa, Yaakov va vraiment être enterré en Eretz Israël, alors que Paro ne voulait pas laisser sortir Yosef. Il n'était pas fou. Yosef, il connaissait tous les secrets de toute l'Égypte. C'est lui qui tenait dans ses mains toute l'économie de l'Égypte. On ne va pas le laisser sortir, il pourrait s'allier avec n'importe qui à l'extérieur et on est perdu. Hachem avait prévu la chose, et donc il a inspiré Yaakov. Yaakov l'a obligé à jurer, et du coup, de fil en aiguille, il a pu partir. Là aussi, Abraham, il veut bloquer complètement Eliezer. Il lui demande, tu jures avec le degré d'engagement le plus fort possible avec Nekita Trefetz. C'est ça. C'est ça qu'il lui demande avant de lui avoir dit ce qu'il allait lui demander. Mais ça va être répété par la suite. Yaakov Avinu, il va le répéter. Il lui a dit tout de suite Simna, mais après, Yosef dit, je ferai ce que tu m'as dit de faire. Et Yaakov lui dit, mais jure. Alors ici, il y a Abraham Avinu, il lui dit, jure. Alors le Rav Brechia, il dit, pourquoi on jure avec ça, avec la Mila? Le fils nitna laem betsahar. Comme c'est attaché avec, ça a été donné, c'est une certaine souffrance. C'est pour ça que ça lui est très précieux et il ne jure que comme ça. Et il lui dit, je vais juste lire la suite, il lui dit « Vashbiacha b'Hashem Elokei Hashamayim ». Je te demande de jurer au nom d'Hashem, le Dieu du ciel, Elokim du ciel, pas le ciel de la terre. Alors pourquoi il dit le ciel? Amar Pinchas, Avraham Avinu, il dit Ad shelo hodati oto le briotav. Avant que je n'ai fait connaître Hachem à ses créatures, Elokei Hashamayim, il n'était que Dieu du ciel. Vekivan sheodati oto le briotav, il est aussi Elokei Haaretz. Donc c'est deux niveaux différents. Un, c'est avant qu'Abraham ait fait connaître Hachem dans le monde. Alors, il est le Dieu du ciel. Mais après, il devient le Dieu de la terre parce que on le respecte sur terre grâce à Abraham Avinu. Et je te fais jurer, Asher lo tikach, que tu ne prendras pas. Mais prendre ici, c'est le mot qu'on utilise pour parler de prendre femme. Ish ki ikach isha. Un homme qui prendra. Tu ne prendras pas, c'est-à-dire tu ne donneras pas de kiddushin au nom de mon fils Yitzhak. Iziro shelo yalech el bnot aner eshkol umamre. En fait, il lui a dit, tu ne prendras pas une cananéenne. Avraham avait trois amis, trois proches, très proches certains. Mais il veut quand même pas qu'Yitzhak les épouse parce que ça touche à Knan. Kiel Artsi Vel Moladti. Tu vas le chercher dans mon pays, dans l'endroit où je suis né. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, là-bas? C'est les idolâtres. Amar Rav Yitzhak. Chitia de Kartach, Zunin, Zraminon. Si le grain de ta ville est abîmé, malgré tout, sème ce grain-là. Ça veut dire, ta famille, ils ne sont pas mieux que les autres. Ils sont aussi de là que les autres. Mais prends quand même ta famille. Le fait qu'il ne soit pas bon, ça n'enlève pas l'avantage famille. On pourrait dire que le fait qu'il soit idolâtre, ça, c'est tellement grave que bon, le fait qu'il soit de sa famille, ça ne joue aucun rôle. Pas du tout. C'est un proverbe là, qu'il cite ici en disant même si le grain de blé de ta ville est abîmé, sème ce grain-là. Tout ça, ça. On ne peut pas prendre la fille d'Eliezer avec tout ça.